Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Alors, bonjour ou bonsoir à tous ou à toutes. Quelques petites nouvelles en passant. Ce soir, on va voir une affaire plus récente qui date de 2020. Pourquoi? Parce que j'ai demandé l'enquête de coroner à l'époque et ça prend toujours un certain délai là, avant de recevoir ça. Évidemment, la coroner, il faut y laisser le temps de faire son enquête. Et donc, je l'ai reçu, on va en parler, c'est l'affaire Steve Bilodeau qui a tué sa belle-mère d'une cinquantaine de coups de hache, rien de moins. Donc, c'était un élément, l'élément de surpuissance, comme on dit, ou en anglais, overkill, qui était frappante dans ça, et c'est pour ça que ça m'intéressait d'un certain côté. Mais je vous donne des nouvelles en passant. Ça fait un petit bout là, que j'ai pas enregistré, je suis dans les rénovations par-dessus la tête. Il fait beau, en tout cas, il fait beau. Les journées, les quelques journées qu'il fait beau, moi, j'en profite. Je me suis construit un patio, rien de moins, donc en deux étapes, puis là, j'ai pas terminé. Mais bon, bref, je profite, je prends l'air plutôt que d'enregistrer en cabané dans mon petit coin de studio. Mais voilà, je vous oublie pas parce que je vais commencer bientôt à préparer les capsules pour la suite là, des affaires non élucidées. Donc, on va voir d'autres épisodes. Je vais essayer de faire ça un peu plus bref pour les années 1800 parce que, je sais que c'est plus, c'est peut-être moins intéressant pour vous, mais bon, comme je l'ai dit, ça vaut quand même la peine. Il y a des cas intéressants qui nous permettent d'apprendre sur les cas qui nous occupent aujourd'hui. Donc, le retour dans le passé n'est jamais anodin. Il est toujours très intéressant, toujours très enrichissant. Mais c'est ça, faut prendre le temps de le faire quand même. Et je prépare aussi, je les enregistre à l'avance et je les publierai probablement assez rapidement ou tout en même temps. J'ai pris mon livre sur l'affaire Blanche Gardeau, une des affaires non résolues les plus célèbres, si on veut, en tout cas qui a marqué le plus le Québec. Ça date de 1920, mais bon, j'ai fait un livre complet là-dessus en 2016. Et 2017, je me rappelle plus, en tout cas, bref. Et je fais une balado par chapitre. Alors, on va prendre le temps de voir l'histoire évoluer et je vous le confie tout simplement. Je vous livre mon livre, l'intégrale du livre, mais en balado. Je sais qu'il y a presque plus de copies en librairie. Même moi, il m'en reste presque plus. Donc, je vous le partage de cette façon-là. Est-ce qu'il y aura une réédition? J'en ai aucune idée. Mais bon, bref, pour en revenir ce soir, on va parler de l'affaire. D'abord, je vais faire un résumé de ce qu'il y a dans les médias. Puis après ça, on regardera ensemble ce qui en est plus là, des détails contenus, dans l'enquête de coroner. Donc, Steve Bilodeau, qui avait 48 ans, je pense, et le drame se passait à Montmagny en 2020. Et, ce qui est particulier dans ça, c'est qu'il faisait une psychose, il y a une question de drogue aussi là-dedans. Il vivait avec son père, mais aussi sa belle-mère, qui s'appelait Marguerite Lamonde. Donc, Marguerite, c'est la victime dans cette affaire-là, et elle était âgée de 69 ans. À l'automne 2022, donc il y a quelques mois, il lui demandait avoir seulement 10 ans de prison, donc tout ça, c'est ce qu'on raconte. L'affaire avait fait jaser à l'époque à Cube Radio et tout ça. Mais voilà, l'homme de 48 ans, Steve Bilodeau, il prenait des méthamphétamines, hein, ce qui est jamais très bon. Et il y avait un... C'était fait un scénario, donc il s'était développé un genre de scénario, évidemment, complètement fou. Qui lui faisait halluciner la mort de son père à la télévision, rien de moins. Et en conséquence, la victime ne devait pas souffrir de cette perte. Lui s'était mis dans la tête que sa belle-mère ne devait pas souffrir de la mort de son père. Et c'est pour ça que Bilodeau s'est attaqué à elle dans son sommeil. En tout cas, si le scénario est vrai, moi, je trouve moins l'explication pour les fameux 50 coups de hache. Parce que 50 coups de hache entre vous et moi, c'est de l'acharnement, premièrement. Donc, ça se traduit probablement, habituellement, par de la rage. Donc, s'il avait fait ce scénario-là, puis il voulait la tuer pour l'aider, si on veut, tu sais. Donc, il n'y a pas de rage dans ça. Sinon, c'est vraiment la drogue. C'est pour ça, à ce moment-là, si c'est pas la rage, c'est la drogue qui l'a fait agir de cette façon-là. Quand il y a des incohérences comme ça, souvent, ben la drogue est en cause, malheureusement. C'est le genre de crime qui n'arrivait pas nécessairement, en tout cas, pas de cette façon-là, la motivation. À une certaine époque, ça n'arrivait pas parce que, bon, il n'y avait pas de drogue en circulation ou très peu. Il y en a toujours eu, vous me direz, oui, mais de façon à consommer des drogues dures et spectaculaires, donc c'était pas répandu là, vraiment comme aujourd'hui. Alors voilà, en gros, c'est ça, c'est un drame tout simplement épouvantable. On racontait aussi dans les médias que Steve Bilodeau était comme revenu à lui, entre guillemets. Après le drame, donc après son d'avoir commis le meurtre. Et bon, il est ressorti de la résidence en pleine nuit en criant pour qu'on appelle la police et il avait admis son crime tout de suite, donc il s'en était pas caché. Et c'est un peu à l'image de ce type de motivation-là aussi. Donc on l'a accusé d'homicide involontaire parce que on n'a pas pu prouver qu'il avait voulu tué ce soir-là, donc il n'y avait rien de prémédité. En tout cas, c'est ça. Selon la loi, si on ne peut pas prouver la préméditation, on n'a comme pas le choix de se tourner vers l'homicide involontaire. Et Bilodeau, durant son procès, a témoigné le fait qu'il y avait des regrets sincères. En tout cas, je vous laisse libre droit de le croire ou non. Moi, pour prendre une telle décision, disons, de le croire ou non, j'aurais besoin de plus d'éléments que ça. J'aurais besoin de l'entendre, premièrement, sur quel ton, sur quels arguments aussi il a utilisé, tout ça. Donc, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais quand un tueur émet des regrets sincères, on peut toujours se poser des questions, dans les deux sens aussi. Donc, il faut faire attention, mais bref, comme on dit, ou comme on disait quand on se faisait mal, nos parents nous disaient ça quand on se faisait mal, quand on était petit, c'est toujours plus facile de demander pardon après coup, hein? Voilà. Et bon, le juge Raymond Pronovost a décidé de le condamner finalement à 15 ans de pénitencier pour homicide involontaire. Qui est survenu, donc, je le répète, en avril 2020 à Montmagny. Le juge, de ce qu'on voit là, sur une recherche très, très rapide là, sur Google, le juge a d'abord rappelé les faits entourant la mort et tout ça. Bon, le fils de son conjoint, Steve Bilodeau, a causé son décès en la frappant avec une hache. Donc, voilà, c'est tout. Ça finit là. Mais ce qui ne finit pas là, c'est qu'après le procès, ben voilà, j'obtiens l'enquête de coroner et on va voir ce que ça peut nous apporter de plus ou de moins, je sais pas. Donc, dans un premier temps, l'enquête de coroner a été faite par Maître Donald Nicole. Des premiers renseignements, bon, évidemment, ça concerne la victime, donc Marguerite Lamonde. Elle avait bien 69 ans, ça s'est passé à Montmagny, le 8 avril 2020. Donc, les circonstances du décès, rédigées par le coroner, est-ce qu'on va en apprendre plus ou moins? Je ne sais pas, mais je vais vous le lire, cet extrait-là, ce paragraphe-là. Selon les informations colligées au cours de l'investigation, le 8 avril 2020, vers 1h30, Madame Marguerite Lamonde a été retrouvée inanimée, avec des blessures importantes à la tête, allongée en position ventrale sur le plancher de la cuisine de son domicile par des policiers qui s'étaient rendus sur place, à la suite de l'interpellation d'un homme dans la rue qui affirmait avoir tué Madame Lamonde. Là, vous aurez compris que le style littéraire, si on peut se permettre de dire ça comme ça, position ventrale, ben c'est sur le ventre. C'est tout simplement à plat ventre. C'est ça. Bon. Ensuite, vous aurez remarqué qu'on évite un peu, on parle de la victime, on identifie la victime, mais on évite de prononcer le nom de Steve Bilodeau. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que les coroners se destinent maintenant à une plus grande censure? Je ne sais pas. On évite même de donner l'adresse. J'en avais parlé lors de cette tendance-là sur ma chaîne YouTube, dans une balado, si on veut, ou vidéo que j'ai faite sur le meurtre de la prostituée Marilyn Lévesque. Puis, quand j'avais reçu l'enquête de coroner, bon, il n'y avait pas vraiment d'adresse, tout ça. Est-ce qu'on veut éviter des chasses aux sorcières, tout ça? Je ne sais pas. Mais des fois, ce que ça me fait dire, c'est qu'il y a moins en moins d'informations, moins de détails, et on va voir une autre information qui n'est pas là, je ne vous la dis pas tout de suite, mais ça me fait penser que, bon, pas qu'on veut nous cacher des choses, là. Moi je ne suis pas amateur de complot, mais vraiment pas du tout, là. Ça c'est, j'entre pas dans le scénario des capotés, mais c'est quand même plate quand on veut nous censurer des détails, soi-disant parce qu'on veut penser, que dire, ah c'est morbide, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais c'est dans les détails, je l'ai dit, c'est même les procès sont fondés là-dessus. Même si c'est des détails qui sont morbides ou qui sont ragoûtants ou bon, qui sont pas très très appétissants, c'est des détails quand même qui permettent de confondre l'accusé ou non. Et on n'a pas le choix, faut s'en servir de ces détails-là parce que si, mettons, on avait caché certains détails, soi-disant morbides pour pas les montrer au public et que, bon, finalement, l'accusé est acquitté au bout de la ligne, ben là, qu'est-ce qu'on ferait? On reprocherait « Ah, ben, vous nous avez caché des choses. » Ben, c'est ça. Il faut en parler, des détails. C'est bien plate, mais si quelqu'un a eu la tête coupée, ben, il a eu la tête coupée. That's it. Bon, ce qu'on dit ensuite, c'est que, étant donné que Mme Lamonde n'avait plus de signes vitaux et qu'elle présentait un évident... Oh, c'est mal écrit, là. C'est marqué « un évidemment crânien ». Bon, vous aurez compris que c'est un traumatisme crânien. Bon, ben le constat de mort évidente a été complété par deux policiers le même jour. Donc, c'était évident qu'elle était morte. C'est ça qu'on nous dit, finalement. En ce qui concerne l'examen externe, donc l'autopsie, il a été pratiqué le lendemain, le 9 avril 2020, au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal. Oui, c'est ça. C'est l'Institut médico-légal de Montréal, dans le fond, depuis 1900, je ne me souviens plus. Dans son rapport, le pathologiste a observé 46 impacts par arme tranchante et contondante de type hache ou une hachette répartis au niveau à l'arrière de la tête, du dos, du bras gauche, de la jambe droite et de la cuisse gauche. Aïe aïe. Donc, c'est oui, à la différence près de 4 coups, là on parle de 46 impacts ici. Et dans les médias, on arrondissait à une cinquantaine. C'est toujours plus spectaculaire, plus gonflé, comme si on veut, comme les gros bras de Schwarzenegger. Mais c'est ça, c'est plus précisément, on a réussi à les dénombrer. Donc, c'est 46 impacts de hache ou de hachette. Alors voilà, ça prouve évidemment l'overkill, la surpuissance. Et comme je le disais, ben, probablement ici que c'était pas, en tout cas, si c'est vrai, sa motivation, c'était pas de la rage, donc on attribuerait ça plutôt à de la drogue. Ces traumatismes au niveau crânio-cérébral, thoracique et musculo-squelettique aux membres supérieurs gauche et aux membres inférieurs se sont avérés mortels. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous en dire plus là-dessus, c'est évident. Des analyses toxicologiques maintenant ont été pratiquées au laboratoire. Et ces analyses-là n'ont révélé aucun alcool ni aucune autre substance ayant contribué au décès. Donc, la victime n'avait rien dans le sang, pas de drogue, pas d'alcool, rien, pas tout. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse que fait le coroner de tout ceci, il dit que Marguerite Lamonde habitait avec son conjoint dans une résidence unifamiliale, donc une maison à dans la ville de Montmagny. Le fils de son conjoint habitait avec eux depuis environ une semaine en attendant de se trouver un logement. Okay. Il nomme pas, mais on parle de Steve Bilodeau ici. Selon les membres de la famille, le fils du conjoint de Madame Lamonde avait déjà connu des épisodes psychotiques à la suite de la consommation de cannabis. Voilà, le fameux cannabis, légalisé maintenant. Hein? Voilà. Lors de l'événement, le conjoint de Mme Lamonde était hospitalisé et cette dernière était seule à la maison avec le fils de son conjoint. Voyez-vous encore, c'est toujours le fils du conjoint. Pourquoi on refuse de le nommer? Je sais pas, le coroner a peut-être ses raisons, mais je trouve ça un peu plate. Le 8 avril, donc, vers 1h50 du matin, 1h05, pardon. Hein, c'est cette habitude-là d'enlever les zéros avant les... Mais c'est ça, je déteste ça, mais même les éditeurs font ça, puis je pense que je les frapperais. Ça m'énerve. Quand c'est 1h05, ben, tu marques 0,5. Et pas, là, tu penses, c'est-tu 50, c'est-tu 0,5? Bref, les nouvelles tendances littéraires, des fois, me font suer. Oui, mesdames et messieurs, me font suer. Bon, il y a une résidente, évidemment, en pleine nuit, une résidente du secteur qui, elle, a communiqué avec les policiers après avoir entendu un homme qui semblait intoxiqué, qui criait dans la rue. Donc, on comprend que c'est le fameux Steve Bilodeau là, qui est sorti dans la maison après. Et vers 1h15, les policiers sont arrivés sur place et ont interpellé ce dernier. Donc, ils l'ont arrêté. That's it. C'est un peu ça. Et c'est là qu'ils ont découvert le corps ensuite. Donc, selon l'enquête du coroner, qui rapporte aussi les détails de l'enquête policière, celle-ci a établi que dans la nuit, vers minuit, en fait, le 8 avril 2020, le fils du conjoint, toujours, on ne le nomme pas, mais moi je vais le nommer, Steve Bilodeau, il est allé chercher une hache au sous-sol de la résidence. Il s'est ensuite rendu dans la chambre de Mme Lamonde et il l'a violemment frappé à la tête à ce moment-là, alors qu'elle était couchée dans son lit. Par la suite, il a traîné son corps dans la cuisine et lui a asséné plusieurs autres coups. Donc, voilà. Donc, ce que l'enquête nous apprend, c'est que finalement, il y a eu déplacement du corps. Qu'il soit conscient ou non, c'est quand même de la mise en scène parce qu'il a touché au corps et il l'a déplacé. Et avant de sortir à l'extérieur, ce qu'on dit est de se diriger en direction du domicile d'une proche qui se trouve à proximité. Ben c'est ça, il l'a comme rachevé dans la cuisine. Et ça ne devait pas être beau à voir. On dit aussi que lors de son interrogatoire, le fils du conjoint de Mme Lamonde a admis aux policiers tous les gestes allégués. Donc, il n'y a rien caché, finalement. Donc, la mise en scène, c'était probablement un réflexe. Le fait d'avoir déplacé le corps, c'était pas volontaire, il voulait pas rien cacher. C'était peut-être juste un réflexe dû à la drogue ou un réflexe qu'il pouvait peut-être même pas lui-même expliquer. Et on dit aussi que Steve Bilodeau a expliqué qu'il avait vu à la télévision une inscription mentionnant que son père était décédé. Ah oui. Il voyait des choses dans la TV que personne d'autre voyait, c'est merveilleux. Et qu'après avoir consulté des êtres suprêmes, rien de moins, il avait agi ainsi afin de soulager la peine qui affligerait Mme Lamonde lorsqu'elle apprendrait le décès de son conjoint. Là, vous aurez compris que le père, il n'était pas décédé finalement. Là, c'était tout dans la tête de Steve Bilodeau, cette affaire-là. Le coroner écrit également que l'ensemble des éléments recueillis démontrent que Mme Lamonde est décédée à la suite de blessures infligées avec une hache par le fils de son conjoint qui semblait vivre un épisode psychotique. Le 27 avril 2020, le fils du conjoint de Mme Lamonde a enregistré un plaidoyer de culpabilité à des accusations d'homicide involontaire coupable, conformément à l'article 234 du Code criminel, et a reçu une peine d'emprisonnement. Eh oui, donc c'est pour ça que, étant donné que l'enquête est récente, le procès est terminé. Donc la cause est déjà terminée et le coroner a décidé de m'envoyer ça cette semaine, alors que tout est terminé. Donc, en conclusion, il se permet aussi d'ajouter ceci. Madame Marguerite Lamonde est décédée d'un polytraumatisme par une arme tranchante et contondante. Il s'agit d'un homicide. Oui, je pense qu'on s'en serait douté, rendu là. Donc, voilà, c'était le contenu de l'enquête de coroner. Est-ce que ça nous en apprend un peu plus ou moins? Ben, si vous aviez suivi le procès, je pense que tout était là. Je ne l'ai pas suivi, évidemment. Il y en a beaucoup à suivre. Hein. J'aimerais ça, assister à tous les procès en direct, que ça serait tout simplement merveilleux. Mais voilà, on fait ce qu'on peut, comme on dit. Ce crime-là ne passera probablement pas à l'histoire. La preuve, c'est que, me semble que dans les médias, évidemment, j'ai une vie assez occupée. J'entends pas tout ce qui se dit dans les médias au moment que ça se passe. Mais je pense qu'on n'en a pas vraiment parlé beaucoup. C'est un simple drame familial. Encore une fois, mélanger la drogue avec la maladie mentale, c'est pas vraiment une bonne idée, n'est-ce pas? Que ce soit le cannabis ou des drogues plus dures. C'est ça, c'est encore... je pense qu'il y a encore des avancements à faire de ce côté-là. Il y en a beaucoup dans d'autres pour d'autres types ou d'autres catégories d'homicides. Mais, donc voilà, on parle souvent des meurtres avec des enfants, il faudra faire quelque chose, si ça, oui, mais Colin, les meurtres avec la drogue aussi, il y en a... Je suis pas rendu là dans mes dénombrements, mais il y en a beaucoup, je pense. Parce que les meurtres liés avec la drogue, ça peut être assez large aussi. Ça peut être une dette de drogue, donc ça peut être comme quelqu'un qui est plus dans le milieu du trafic, mais ça peut être aussi par l'influence de la drogue. Ça, c'est différent, mais la drogue, depuis qu'elle est là, c'est ça, ça fait des victimes. Si vous avez suivi la série Narcos à la télé, là, c'est sûr que c'est plus vaste, là. On parle pas juste du Québec, mais ça donne quand même une bonne idée de comment ce milieu-là fonctionne. Puis c'est ça. Des fois, il y en a qui vont me dire, on le savait déjà, oui, mais pour ceux qui le savaient pas, ça peut être quand même un bon indicateur. Voilà. Donc, c'est ce crime-là, malheureusement, c'est les 46 coups de hache là, qui sont frappants. Steve Bilodeau va ressortir dans 15 ans, peut-être avant. Voilà, on a vu, je ne veux pas juger de ce cas-là, c'est pas mon intention, mais par contre, on a quand même vu des balados anciennes dans notre époque, dans notre histoire du Québec, qui à certaines époques, des crimes comme celui-là, il aurait été tout simplement pendu, ou il y aurait eu des peines beaucoup plus sévères. Mais bon, c'est ça qui est ça, comme on dit. Hein? C'est tellement philosophique ce que je viens de dire là. Mais c'est ça. Évidemment, c'est à souhaiter qu'il ne récidive pas et qu'il soit encadré. Maintenant qu'il a commis un meurtre, c'est plate, mais il faut quasiment qu'il commette un meurtre pour après ça être suivi de près. Parce que là, il va avoir l'étiquette de meurtrier en arrière du collet. Fait que on va le suivre probablement plus que une petite personne comme une autre qui fait des psychoses de temps en temps. Il n'y aura plus droit juste à une tape ses joues. Mais bon, bref, c'est encore une triste histoire de drame familial. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous aurez une journée plus ensoleillée. Merci, bye.